Jocelyne Desjouets du GAEC de Marsoulette. L'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant.
Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales.
Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique. Sachant que si on va plus profondément dans les 15%, et bah les filles qui vont développer ces outils, bah y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%.
À plein d'endroits, c'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ?
Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour, je suis Magali et je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode de notre émission Les Femmes Digitales. Elle a plusieurs cordes à son arc et cet arc s'appelle Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Alexia Audevard. Bonjour Alexia.
Bonjour Magali.
Alors, nous comptons sur toi pour nous raconter qu'il est possible d'être une femme et de s'éclater dans l'intelligence artificielle. Et je commence par la question d'introduction de cette émission. Alexia, dis-nous pourquoi tu es une femme digitale.
Alors, je pense que je suis une femme digitale parce que je suis data scientist, je suis également formatrice, je suis également fondatrice de la société Datactic, auteure et conférencière.
Waouh, ce CV est très impressionnant, bravo. J'entends que tu es une femme du coup très dynamique au sein de la filière numérique. Pourrais-tu nous en dire davantage sur qu'est-ce que le métier de data scientist ?
Alors, data scientist, c'est un peu une sorte de mouton à cinq pattes. C'est quelqu'un qui a trois compétences. La première, c'est une compétence à la fois informatique. Donc, il va être capable d'aller collecter de la donnée, de la stocker, de la préparer, de la traiter. Quelqu'un qui va avoir également des compétences en mathématiques et statistiques pour aller retrouver des patterns, des motifs dans les données et puis faire du prédictif. Et c'est aussi quelqu'un qui va avoir des compétences en conseil, en communication, qui va être capable d'aller discuter avec des gens du métier pour voir comment on peut valoriser leurs données et faire émerger de nouveaux produits, de nouveaux cas d'usage.
Ok, alors j'ai entendu plusieurs mots. Hein. On a parlé de mathématiques, de statistiques, d'informatique, du mot data. C'est assez impressionnant, ça. C'est un peu ce qui fait peur aujourd'hui autour des métiers de la data et du métier de data scientist, c'est qu'on ne sait plus quelle doit être la formation, le cursus scolaire, comment arriver à ces métiers, quels sont réellement ces métiers. On entend d'ailleurs plusieurs définitions, donc toi tu l'as très très bien définie. On se rend compte que du coup, il doit y avoir plusieurs compétences pour pouvoir être data scientist. Mais derrière chaque carrière, il y a bien une histoire. Et on se demande toujours comment travailler dans la data. Est-ce que forcément on doit être fort en informatique ou pas? Est-ce que c'est une vocation du plus jeune âge? Alors toi, Alexia, ton histoire, c'est quoi?
Alors moi, depuis toute petite, je rêvais d'enseigner. Je rêvais d'être professeur des écoles. Donc jusqu'au collège, je rêvais vraiment d'être professeur des écoles. Et puis... Arrivé au collège, on a eu des cours de technologie et là je me suis dit mais pourquoi pas faire professeur d'informatique, mais ça n'existait pas encore. D'ailleurs ça existe que depuis très très récemment. Et je continuais sur une voie scientifique, donc j'ai fait un bac S, option mathématiques, en me disant je serais prof des écoles ou professeur de mathématiques. Et puis au lycée en fait j'étais vraiment fan de basket, je jouais tout le temps au basket. Donc là je me suis dit pourquoi tu ferais pas STAP, ça serait cool. Donc, je m'orientais sur ça. Et puis, en terminale, je me suis blessée au genou. Une blessure qui a eu du mal. J'ai eu du mal à récupérer tout ça. Donc, STAPS, c'était peut-être pas très le bon moment, en fait, pour faire ça. Donc, je suis partie plutôt en DUG, maths informatique, bien motivée à devenir prof de maths. Il y avait de l'informatique, mais c'était plus les maths qui me branchaient. Et puis, arrivé au dernier semestre de DUG, là, on avait des notes qui n'étaient pas terribles dans la promo. Et les miennes n'étaient pas terribles. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un thésard qui a pris le temps de nous expliquer ce qu'on pouvait faire en informatique, parce qu'on n'avait pas beaucoup de cours appliqués. Et là, du coup, je suis partie en licence informatique, maîtrise informatique, master informatique. Et puis, en me disant, de toute façon, si je veux enseigner, je pourrais toujours enseigner. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 10 ans de développement Java J2E au sein de différentes sociétés. Après, j'ai fait de l'architecture logicielle, un petit peu de conseils, et puis je suis rentrée dans le monde du big data. Et là, en fait, je me suis éclatée, j'ai commencé à faire de la data visualisation, du machine learning, du deep learning, et puis ça m'a amenée à créer ma société en 2017, Et depuis, j'accompagne mes clients dans la valorisation des données. Et puis, je peux faire plein d'activités. Donc, 60% de mon activité, c'est faire du conseil, du développement, de l'expertise. 30%, c'est de la formation auprès de professionnels ou d'étudiants. Et puis, les 10 autres pourcents, c'est pour faire des conférences, écrire des livres, des articles, etc.
Ok, c'est passionnant. Alors, justement, raconte-nous un petit peu ta première conférence.
Alors, ma première conférence, déjà, je n'étais pas du tout préparé à faire une première conférence. J'ai rencontré une personne au salon du Big Data. Au salon du Big Data, une personne qui organisait des meet-up sur Nantes. Moi, j'ai organisé des meet-up sur Toulouse. Puis elle m'a dit, ça serait bien que tu viennes parler chez nous. Alors, je fais, ok. Et donc, ma première conférence, il y avait 100 personnes, on était filmés. C'est la conférence, je crois, qui a ce jour le plus de vues sur YouTube, de celle que j'ai donnée. Donc j'avais vraiment peur. et puis ça m'a lancé en fait. J'ai fait 3 ans de conférences chez eux. Tous les ans j'y allais. Et puis ça m'a amené jusqu'à faire un TEDx en 2020.
Et donc en introduction, tu nous disais aussi que tu étais auteur. Alors donc tu écris des livres. Explique-nous un petit peu, mais comment on arrive à écrire des livres sur l'intelligence artificielle ?
Alors moi dans ma vie, j'ai jamais trop rien calculé. Alors l'écriture du livre, c'est assez rigolo. J'ai reçu un message un jour sur LinkedIn d'une dame qui voulait écrire un livre sur l'entreprise disruptée qui est paru chez Duno. Et elle me demandait si j'acceptais de faire 2 pages de paroles d'experts sur le sujet IA et RH. Et donc, je me suis collé à l'exercice. Et puis elle me dit, mais vous devriez écrire un livre. Vous avez toutes les capacités pour. Je fais, non, moi, j'écris pas de livre. Et puis, un peu plus tard, lors d'une soirée chez un ami, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma future co-auteure. Et elle faisait des études de neurosciences et était en train de se former à l'intelligence artificielle. Donc, elle connaissait le fonctionnement du cerveau biologique. Et puis, elle rentrait dans la création de réseaux de neurones artificiels. Enfin, en fait, on essaye de reproduire mathématiquement ce qui se passe dans notre cerveau, enfin, plus ou moins. Et moi, je faisais le chemin inverse, en fait. Je connaissais le deep learning, donc les réseaux de neurones artificiels, et je m'interrogeais sur comment fonctionnait le cerveau humain. Et de là, on s'est dit, on pourrait écrire un livre. Puis je dis, oui, en plus, je connais des gens chez Duno. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, on a passé 2-3 mois à expliquer notre projet à Duno, qui nous a suivis. Puis après, on a écrit notre livre en 6 mois. Et puis un an après, en fait, le livre était à la FNAC.
Une idée, des conférences, des partages, et puis pof, un livre à la FNAC. Bravo. En tant que femme, du numérique, as-tu déjà ressenti un a priori avec tes collègues lorsque tu as donné des conférences, lorsque tu as présenté ton livre ?
Non. En fait, je vois ça un peu comme quand je vais jouer au basket dans les playgrounds. Quand on arrive et qu'on est une fille, souvent les garçons, ils n'ont pas envie de jouer avec nous. Et puis, on s'impose un peu, on joue, on marque quelques paniers sur leur tête. Et puis, après, c'est bon, en fait, on peut jouer dans la même cour qu'eux. En informatique ou en intelligence artificielle, c'est un peu le même truc. Il y a souvent une petite crainte. Enfin, il peut y avoir, pas tout le temps. Mais dès qu'on prouve qu'on a les capacités, il n'y a aucun souci.
Alors, tu disais aussi que tu donnais des cours et tu faisais des interventions auprès d'étudiants. C'est quoi la question classique posée par les étudiants lors de tes interventions ?
Alors, la question classique, c'est mais quelle étude vous avez fait pour en arriver là ? Et là, la réponse que je leur donne, c'est des études bien moins bien que celles que vous faites actuellement. En fait, la majorité des écoles où j'enseigne, j'aurais jamais pu y rentrer avec mon dossier que j'avais à la sortie du bac.
C'est vrai que souvent, on nous demande, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quelles études on fait pour rentrer dans les métiers du numérique. Et tu es finalement la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'avoir fait certains cursus ou qu'il n'y a pas de voie royale et établie pour pouvoir en tout cas en arriver au job de data scientist, auteur, conférencière, formatrice, enseignante. Alors, sur ton parcours, je sais aussi que tu es tagué Google Developer Expert. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, les Google Developer Expert, donc c'est des ambassadeurs de Google. En gros, Google choisit des personnes en différentes thématiques dans chaque pays. Et on a un espèce de partenariat où ils nous donnent des informations en avant-première. Nous, on peut tester leurs produits, leur faire des retours. On peut aussi faire des conférences sur leurs produits ou comparer leurs produits avec des produits concurrents. Et puis, vraiment, on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas pieds et mains liés à Google. Donc on est un peu des ambassadeurs Google. Et en France, on est deux personnes dans le domaine du machine learning. Et j'ai la chance d'en faire partie.
Donc on arrive au terme de notre émission. On termine toujours avec la question fatidique. Si tu avais un conseil à donner à d'autres femmes, d'autres filles, par rapport à la filière numérique et aux opportunités qu'elles proposent, que leur dirais-tu ?
Alors, je vais vous faire une phrase qui est grandement inspirée d'Oscar Wilde. Visez la lune et au pire, vous arriverez dans les étoiles.
Merci, Alexia. Alors, on termine par le mantra du numérique au féminin.
Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes, une opportunité pour le numérique.
Merci Alexia pour cet entretien. Elle est data scientist, auteure, conférencière, formatrice et un véritable couteau suisse du numérique et du monde de l'intelligence artificielle. C'est une femme digitale accomplie et impressionnante. Il s'agissait d'Alexia Audevard, aujourd'hui pour notre émission Les Femmes Digitales. Merci Alexia.
Merci Magali.
Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait et je vous souhaite une belle journée.